Alors, bonsoir tout le monde. Et Monsieur le maire Pedneau-Jobin vient de faire son entrée dans la salle, accompagné de Monsieur Jeff Westandy du projet Zibi.
Bonsoir, monsieur.
Alors, bienvenue à tous. C'est toujours un plaisir pour moi de m'adresser à mes concitoyens. Alors, vous allez voir des illustrations qui sont assez grandes. Si vous sentez le besoin, là, j'ai invité la plupart des gens à s'asseoir vers l'arrière, c'est très bien. Si certains d'entre vous veulent vous reculer durant la présentation, n'hésitez pas à le faire, parce qu'on capte mieux les images si on est plus loin. Alors, je vais commencer par les remerciements. Oups, c'est pas ce qui sort à l'écran. Mario, peut-être que... On a besoin de toi pour attendez. Voilà. Alors, je veux remercier bien sûr la Société Gatineau Monde, les centres d'archives tels que Bibliothèque et Archives nationales du Québec, les musées comme le Musée canadien de l'histoire, Musée McCord, Musée des beaux-arts du Canada, et de mes collègues historiens. Vous savez, quand on entreprend de grandes recherches, nos propres recherches reposent toujours sur les travaux de d'autres chercheurs. Alors, vous avez à l'écran quelques-uns des chercheurs qui m'ont aidé à faire ma recherche. Ce que l'on va voir rapidement en une heure, le site dans son ensemble, un petit survol du cadre bâti actuel, les trésors cachés, l'histoire du site qui va se faire à travers ces trésors cachés-là. On va voir comment l'histoire régionale, l'histoire locale rejoint la grande histoire nationale. Je vais y aller de quelques recommandations et à la fin, ce sera à votre tour de poser des questions ou de faire des commentaires. Et évidemment, il faut vraiment attendre la fin parce que j'ai beaucoup à dire en peu de temps. Ce que l'on voit ici, c'est une image satellite de la région Gatineau-Ottawa. Et attends, ici, je mets mon petit pointeur. Ici, on a les Chaudières, donc en vue satellite, avec les îles autour, la berge de Gatineau et celle d'Ottawa qui donne le musée de la guerre ici, et plus au sud, les plaines bretons. On a cette image qui a été prise lors d'une grande crue comme cette année et on voit à quel point le bouillonnement de la chute se répercute plus loin. Autrefois haute de 10 mètres, à cause du barrage maintenant, la chute tombe en pente douce. Elle est visible à partir du pont, c'est à cet endroit où on la voit le mieux, mais évidemment, les voitures viennent nous bloquer la vue, ce qui est très malheureux. Le terme « chaudière », ça remonte à la visite de Champlain, et ça vient du fait que la chute tombait de 30 pieds dans une cavité rocheuse, c'était la roche ordovicienne, qui était assez tendre et au fil du temps, l'eau a creusé une cavité. C'est cette cavité-là qu'on appelait chaudière et d'autant plus qu'il y avait un bouillonnement, hein, le rebondissement des eaux et de la vapeur d'eau. Alors, tout ça faisait qu'on l'appelait chaudière. Alors, et on a deux autres petites chutes. La petite chaudière, qui est au trou du diable, mais que l'on ne voit plus, et une toute petite chute qui est près d'une centrale électrique et vous allez la voir plus tard. Alors ici, attendez, il faut que je sorte du stylet. Vous allez avoir tout simplement un aperçu de l'impétuosité des chutes. Si le stylet veut bien... Bon, je ne veux pas perdre trop de temps là-dessus. Malheureusement, on les avait tout à l'heure. Peut-être que durant la période des questions, je pourrais y revenir. Alors, on a ici une belle vue aérienne. Je remercie la personne qui a mis la photo gratuitement sur Wikicommons. C'est une très belle photo du site. Alors, vous reconnaissez donc le barrage en hémicycle. On a ici vraiment la berge gatinoise. Ici, c'est l'île Chaudière, l'île Victoria, la presqu'île Amelia. Ce sont des choses dont je vais vous parler. Et très important, la frontière, parce qu'on sait la frontière Québec-Ontario ici. Vous voyez le beau crochet qu'elle fait, ce qui permet aux chutes d'être du côté du Québec, donc de Gatineau. Et donc, en soi, pour Gatineau, c'est quelque chose de très riche d'avoir les chutes sur son territoire. Les édifices patrimoniaux, il y en a qui sont classés. Classés, ça veut dire qu'ils sont formellement protégés. On ne peut pas les démolir. Ils doivent être rénovés, restaurés. Alors, vous connaissez bien ceux du boulevard Taché. Vous les trouvez peut-être pas du tout jolis, mais je peux vous assurer qu'une fois qu'ils seront rénovés, vous allez changer d'idée. Ça va être très différent. Alors, ils remontent à 1892. Ce sont les édifices de la EBD. Et cette partie-ci est plus ancienne, 1882 environ. Du côté ontarien, mais faisant partie de notre paysage, on a les édifices de John Rodolphus Booth. Ici, c'était la cartonnerie. Alors ça, ce n'est pas protégé, donc on peut se permettre de modifier davantage ces édifices-là. Et ceux-là ont été démolis il y a quelques années. Le barrage en hémicycle est en soi patrimonial parce qu'il a maintenant plus de 100 ans. Il a été construit en 1910. Alors, un barrage centenaire, un autre aperçu ici. Et le pont, lui aussi, le pont, vous allez voir comment il est patrimonial. La localisation du site est en soi très importante parce que vous avez le boulevard de la Confédération ici, qui est lié, hein, qui fait une boucle à partir du Parlement canadien. Et le site est ici et il s'étend par l'île Victoria. Il s'étend donc sous le pont du Portage et fait donc partie de la boucle de ce boulevard de la Confédération. Le trésor caché, ce sont les œuvres qui représentent le site. Alors, je vous en donne un exemple. Ici, on a la vue du site 2006. Et ici, 1955, alors on a 160 ans de distance entre les deux et ça permet donc de voir toute la transformation territoriale qui s'est produite. Donc, plusieurs artistes ont représenté le site. Là, j'en ai mis quelques-uns, je ne vais pas tous les énumérer, mais ça vous donne une idée de l'ampleur là, de cet aspect des arts visuels qui complètent ce que l'on retrouve sur le site. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir de ces œuvres-là ou à travers d'elles, on peut faire une histoire du site. Donc, elles complètent vraiment très bien la couche actuelle. La couche actuelle, les édifices que je vous ai montrés plus tôt, remontent à la période industrielle des pâtes et papiers. Mais avant cette période-là, il y a toute une histoire et on peut la suivre de façon fort belle à travers les œuvres d'art. Et on commence par ce gros plan d'une carte géographique qui a été dessinée de la main de Champlain et qui montre un segment de la rivière des Outaouais avec le territoire des Algonquins. Et Champlain, à ce moment-là, l'avait nommée la Grande Rivière des Algoumequins et c'est le nom qui va rester durant le régime français. On a cette belle illustration de William Jeffreys qui représente Champlain en train de prendre une mesure. Et on avait une œuvre tout à fait semblable exposée nulle part ailleurs qu'au Château Laurier, dans une des grandes salles de conférence du Château Laurier. C'était une très grande œuvre là, de plusieurs pieds de large et de haut. Et donc, c'est que Champlain, quand il est passé dans la région, il a fait le portage pour contourner la Grande Chute. Et dans son ouvrage de 1613, il décrit la chute. Et c'est là on voit qu'il la désigne comme étant Chaudière, ici, vous voyez. Et le nom de Chaudière est resté et s'est même imposé auprès des anglophones. Et ici, on a une autre vue intéressante. Champlain a décrit la chute, mais il a aussi décrit une cérémonie du tabac, une offrande de tabac qui était faite par les Indiens, par les Anishinabés, qu'on appelait à l'époque Algonquins ou Algoumequins. Et c'est encore Jeffreys qui a imaginé ce segment de l'offrande. Et ça aussi, on a une aquarelle petit format. Et aux Archives du Canada, il y a la grande peinture qui, elle aussi, était exposé nulle part ailleurs qu'au Château Laurier. À la suite de Champlain, bien, il y a toute une panoplie d'explorateurs, ceux que vous avez appris dans vos cours d'histoire. Alors, Nicolet, Radisson, des Groseilliers, cavaliers de la Salle, ils ont tous fait le portage autour de la Grande Chaudière vers la route de l'Ouest ou les routes du Nord, en tout cas, pour poursuivre leurs explorations. On a cette œuvre ici de Philip Bainbridge qui représente des gens en train de faire un portage sur la rivière des Outaouais. Et le sentier des portageurs, pour cette raison-là, en raison de tous les gens importants qui l'ont parcouru, eh bien, ce sentier-là a été patrimonialisé. Et ça remonte aux années 1920-1930. Maintenant, il est recouvert d'une piste cyclable. Mais si vous allez dans le parc des voyageurs, il y a des panneaux d'interprétation qui en expliquent l'histoire. À la suite des explorateurs, on a eu, bien sûr, les missionnaires et militaires, et dont l'illustre Jean de Brébeuf. Et on a ce missionnaire Bressani qui a rédigé un ouvrage sur son voyage, sur ses observations. Et on a la représentation la plus ancienne connue du segment où se retrouvent les chaudières. Et on voit clairement que c'est en territoire algonquin. Cette belle représentation aussi en ce qui concerne les missions d'un missionnaire en état de méditation sur la rivière des Outaouais, c'est Francis Anne Hopkins. Vous avez tous vu ces tableaux de voyageurs là, qui pagaient dans les canaux. Cette œuvre-là n'est pas connue, mais je la trouve fort belle et fort éloquente sur ce qu'un missionnaire qui partait tout seul dans les vastes forêts pouvait vivre. Ici, c'est pour vous donner le contexte un peu plus grand. Comme je vous disais, là, on est à l'époque de la Nouvelle-France, et qui est ici en jaune. Donc, la Nouvelle-France couvrait ce territoire, et la rivière des Outaouais et les chutes sont à sa limite, sud-est. Et en dessous, bien là, on avait un territoire qui était litigieux. Et arrive la conquête, et après la conquête, il y a des guerres autochtones, les guerres de Pontiac, qui viennent ébranler le régime britannique. Et donc, les autorités britanniques rédigent ce que l'on appelle la Proclamation royale de 1763. Et là, il y a une redivision territoriale qui se fait, donc ça balaie la Nouvelle-France. Et à la place, on a ce territoire identifié comme Québec, mais ce n'est pas la province de Québec d'aujourd'hui. C'est la province britannique du Québec, et ce territoire de Québec est entouré d'un vaste territoire qui devait être réservé aux gens des Premières Nations. Et à la frontière de ce territoire, on a la rivière des Outaouais, ici. Alors, du côté donc du Québec, la rivière des Outaouais, mais avec ses bassins versants qui dépassent le territoire. Et là, on comprend que les gens des Premières Nations, eux, ne voyaient pas la ligne droite, n'est-ce pas? D'où les litiges auxquels on fait face actuellement. Oh, oh! Mario, OK. Ici, on a la plus ancienne représentation des chutes connues, les chutes comme telles, non pas sur une carte, mais les chutes elles-mêmes. Alors, c'est un militaire britannique qui était très bien formé en art. Beaucoup de militaires britanniques étaient formés en art parce qu'ils devaient être en mesure de représenter les territoires, les zones de combat. Mais beaucoup pratiquaient les arts durant leur loisir. Et ils avaient quelques instants, alors ils sortaient leur cahier et faisaient des dessins. Et on voit donc ici le segment... Un des segments de la chute des Chaudières, avec la présence des premiers peuples autour. Et au loin, ici, très important, j'en ai fait un gros plan, c'est le portage qui était fait pour contourner la chute. Alors, on a cette œuvre faite aussi loin que 1791, donc l'année où on a établi, c'est à ce moment-là, le bas et le haut Canada. Cette année-là, eh bien, on a aussi immortalisé le portage qui était fait en amont là, de la chute des Chaudières. On a une autre présentation faite un petit peu plus tard. On a toujours le portage, mais là, vous remarquez, les membres des Premières Nations ont disparu. Ici, c'est une des œuvres connues de Frances Anne Hopkins. Alors, on voit les portageurs, ceux qui faisaient la traite des fourrures. Encore, même si on est sous le régime anglais dorénavant, la tuque rouge, hein, c'est symbolique des Canadiens français et les Amérindiens aussi qui participaient toujours à la traite des fourrures. Et là, le gouvernement britannique va décider d'ouvrir ce territoire qui était strictement réservé à la traite des fourrures. Donc, jusqu'en 1800, ici, la région, il n'y avait pas de colonie, pas de village, c'était réservé à la traite des fourrures. Et en 1800, ça change. Donc, on invite des Britanniques ou des Américains britanniques qui étaient restés ou se disaient fidèles à la couronne, on les invite à venir occuper les terres. Et là, on va avoir une petite communauté d'une trentaine d'hommes, de 5 femmes, de 21 enfants, 14 chevaux et 8 bœufs qui vont partir du Massachusetts et s'en venir ici dans la région avec à leur tête Madame Abigail Wright. Non, pas tout à fait. Avec à leur tête Philemon Wright, dont l'épouse était Madame Abigail Wright, et Philemon Wright, qui était le chef de canton désigné et qui a écrit son autobiographie en ne parlant que de lui, mais il y a des documents d'archives qui montrent que Madame Wright s'occupait des affaires de M. Wright en son absence ici. Alors, c'est elle qui faisait marcher les chaudières lors des fréquents déplacements de M. Wright. Un des faits marquants durant l'époque de Wright, c'est la visite du comte de Dalhousie, qui était le gouverneur de l'Amérique du Nord britannique, et qui faisait toutes sortes de déplacements hein, sur le territoire britannique, et qui était accompagné d'artistes. Et l'un de ces artistes-là était John Eliot Wolford, et il a fait cette représentation des chutes. Alors, on en a une première ici. Les chutes, et vous voyez ici, c'est la maison. Ah, on ne l'a pas? OK. Oh, qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure pour la voir? Oui, Mario est là, mais je ne veux pas perdre trop de temps non plus. Je vais refaire un essai. C'est ceci que j'aimerais avoir, là, l'Internet. Comment on est allé chercher tout à l'heure? OK. Merci, Mario, mon héros. Une bonne bain d'applaudissements pour Mario. Alors, donc, on a cette représentation des chutes qui a été faite par Wolford qui accompagnait le comte de Dalhousie. Et on y voit ici la maison de Philemon Wright à proximité des chutes. Et on a une autre œuvre, les deux petits personnages ici. Eh bien, on a des raisons raisonnables de croire qu'il s'agit de M. Wright et du comte de Dalhousie, tous les deux en discussion. Une autre œuvre très importante, c'est celle-ci. Ah, attendez, là, il faut que je revienne à plein écran. Voilà, on a cette œuvre de Henri Duvernay, la seule œuvre de Henri Duvernay, qui était militaire aussi, qui est devenu juge de paix, et qui a laissé cette magnifique œuvre fort importante pour nous. Elle est très importante parce qu'elle représente la première agglomération de la région de la capitale nationale. La ville de Gatineau, Hall, Wrightville, s'est établie avant l'arrivée du colonel Bay, donc avant la ville d'Ottawa. Et ce qu'il y avait du côté d'Ottawa, il y avait un débarcadère avec une taverne, un petit magasin et un chemin qui s'en allait jusqu'à Richmond, 30 km plus au sud. Alors, quand on parle des débuts de la région de la capitale nationale, c'est ici, du côté de Gatineau, que ça s'est passé, et c'est plus précisément au Trou du Diable, près du pont des Chaudières, donc à côté de la Grande Chaudière, là où était la petite chaudière. Alors ici, on la voit, la petite, aujourd'hui, elle est cachée à l'intérieur, elle alimente les turbines d'une centrale électrique. Et ce que l'on retrouvait, donc on avait un moulin à scie et à farine, un édifice qui servait de bureau d'auberge d'entrepôt, et ici, on avait une forge. Et aujourd'hui, voilà à quoi ça ressemble. Alors, vous comprenez à quel point il est important pour compléter notre compréhension, notre mémoire du territoire, ces œuvres-là sont importantes. Et l'architecture, donc, je vous disais que la petite communauté venait du Massachusetts. Alors, c'est l'architecture géorgienne qui était en place là-bas. On la reconnaît au clocheton, on la reconnaît ici à la présence d'une fenestration là, dans l'entretoit, les fenêtres à carreaux à guillotine. Et on a aussi sur cette même œuvre, et là l'historien Gosselin, M. Gosselin pourrait vous en parler, on a ici ce que lui appelle la maison gothique, qui remonte à la Nouvelle-France et au-delà, et qui est l'ancêtre de la maison allumette, avec son entrée dans la partie la plus étroite. Alors, c'est intéressant de voir sur cette même œuvre la cohabitation de deux styles architecturaux qui vont aussi représenter les deux communautés qui vont s'implanter dans la région. Donc, les descendants des Américains britanniques et les Canadiens français qui étaient déjà dans la région à faire de la traite des fourrures. Ici, on a une autre œuvre importante, moins à droite. Elle vient de Joseph Bouchette, qui était géographe, qui a fait beaucoup d'arpentage dans la région pour mesurer tout le terrain là, du Haut et du Bas-Canada. Et en frontispice de son rapport de 1824, ce qu'il choisit de mettre parmi tout ce qu'il avait vu dans le Haut et le Bas-Canada, il avait parcouru tout le territoire, ce qu'il choisit de mettre, eh bien, ce sont les chutes des Chaudières avec le chemin du roi et la maison de Philémon Wright. Philémon Wright qui va, en 1806, amorcer l'industrie du bois. Alors, la Grande-Bretagne est en guerre avec Napoléon. Napoléon a fait un blocus. La Grande-Bretagne a besoin de bois. Elle se tourne vers sa colonie. Et Philémon Wright est là pour faire transformer les coureurs des bois en bûcherons. Alors, on commence à couper le bois dans les forêts, on les assemble en radeaux. Les radeaux partent d'ici, se rendent jusqu'à Montréal, Québec. À Québec, le bois, les radeaux sont démantelés et chargés dans des navires qui se rendent jusqu'en Grande-Bretagne et qui permet à la Grande-Bretagne de devenir la grande puissance qu'elle est devenue. Ici, on a un artefact archivistique absolument merveilleux. C'est le Raft Log, le journal de bord de Philémon Wright. Alors, puisque un raft, un bateau, un radeau, c'est une embarcation, c'est un bateau, alors Wright tenait son journal de bord jour après jour. Alors, on a la date ici, 1806. Alors, celui-là remonte à la première année, mais on en a des journaux subséquents. Et il raconte ce qui se passe, et ici, il parle d'une tempête qui avait démantelé le radeau, il avait fallu courir après tous les morceaux et le réassembler. Alors, son périple avait demandé plusieurs semaines parce qu'il fallait démanteler le radeau à chaque chute et à chaque rapide qu'il rencontrait. Il fallait ensuite le réassembler. Alors, mais ici, on voit une autre belle représentation de Bainbridge, des chutes, la maison de Wright. Et ici, on a un petit radeau. Évidemment, pour ne pas tomber dans la chute, il reste près de la berge. Et là, il se dirige vers quelque chose de formidable. Il se dirige vers un glissoir à radeau. Pour éviter d'avoir continuellement à démanteler les radeaux et à les réassembler, le fils de Philemon Wright va aller voir dans les pays scandinaves comment on procède avec le transport du bois. Il voit qu'il y a des glissoirs, mais ce sont des glissoirs à billes individuelles. Et Wright revient et il adapte ce concept de glissoir qui contourne des chutes ou des cascades ou des rapides. Et il l'élargit de la largeur d'un radeau, 26 pieds par 24 pieds. Les radeaux mesuraient ça, 26 par 24. Alors, il fait à la largeur d'un radeau. Et là, on a des glissoirs à radeau. Et enfin, on n'a plus à démonter pièce par pièce chacun des radeaux. Il y a un démantèlement qui se fait parce que les radeaux étaient attachés les uns derrière les autres pour former des trains de bois. Mais au moins, on a des radeaux entiers. Et ici, donc, on a une illustration et une photographie qui a été prise ultérieurement. Et là, l'invention est tellement bonne, cette invention gatinoise, n'est-ce pas, est tellement bonne qu'on va l'adapter ailleurs sur la rivière des Outaouais et aussi tout près d'ici, du côté sud de l'île Victoria, c'est le canal Bronson, ici. Alors, on a cette représentation assez pittoresque du canal Bronson avec le Parlement avant le feu de 1916 au loin. Une autre représentation, celle-ci est intéressante parce qu'on voit aussi, on a aussi installé sur le site des Chaudières des glissoirs à planche unique, à billes uniques ou à planche unique. Et là, on voit les deux qui se côtoient, donc ce qui a inspiré Ruggle Wright et ce qui est devenu son invention. Et ici, j'amène votre attention sur cet édifice. Vous le reconnaissez, c'est le restaurant, le pub Mill Street. Alors, donc, on en a cette représentation. Évidemment, la partie du toit ici a été endommagée, si je me souviens bien, lors du grand feu. Et on a restauré, donc, l'édifice. Et voyez, ici, on a, je vous disais qu'il y avait une autre petite chute. Alors, cette petite chute-là, elle alimente une centrale électrique et on la retrouve ici sur cette œuvre d'une femme qui est Alice Mary Fulford. Alors, encore une fois, on voit comment les œuvres viennent compléter ce que l'on retrouve sur le territoire. Donc, l'ère des radeaux qui va durer une centaine d'années. Tellement que les parlementaires vont en être excédés parce qu'ils voient au pied du Parlement tous ces radeaux-là. Et ils sont tellement nombreux qu'à certains moments, on peut traverser à gué d'un radeau à l'autre, d'une rive à l'autre. Et avec le temps, bien, on fait appel à des vapeurs. Il y a donc des vapeurs qui vont s'activer là, en aval des chutes. On tire les radeaux à l'aide de vapeurs et tout le travail qui se faisait à force de bras se trouve à être mécanisé, et ce qui prenait 8-10 semaines pour faire le périple d'ici jusqu'à Québec se faisait en quelques jours seulement. Ici, on a une autre œuvre qui représente la petite agglomération, donc, qui est près du trou du diable et de la petite chaudière. Et là, vous voyez cette partie-ci, je l'ai agrandie, et c'est intéressant parce qu'on y voit la forge, moulin assis à farine, l'édifice magasin qui devient un magasin entrepôt qui n'est plus une auberge parce qu'on a construit un hôtel, la maison de Wright ici, et ici, on a deux petites échoppes, sellier, cordonnier, boulanger, chapelier, donc des artisans qui étaient installés aux Chaudières et qui faisaient que la petite communauté, qui était quand même assez loin de Montréal, cette petite communauté, donc, arrivait à vivre en autarcie, à satisfaire ses besoins. 1826 arrive le colonel Baille. Et qui est là pour déboiser? Eh bien, les anciens coureurs de bois qui sont devenus bûcherons. On les reconnaît avec leur tuque et leur ceinture fléchée. Alors, il déboise le terrain sur lequel le colonel Bay va installer son premier campement et éventuellement les casernes sur la colline du Parlement. Et avec l'arrivée de Bay, bien sûr, s'amorce la construction du canal Rideau. Et là, on va, pour permettre le transport des matériaux de Montréal jusqu'au canal, on va construire un pont qui en fait est une série de ponts, qui avait été recommandé par Joseph Bouchette, l'arpenteur dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Mais Bouchette recommandait la construction du pont, lui, pour unir le Haut et le Bas-Canada. Alors, on finit par faire le pont, mais c'était pour des raisons plus pratiques que politiques. Et là, on va regarder de plus près. Donc, on avait des arches de pierre, il y en avait trois. On avait un segment en bois. Et ici, le premier pont était fait de cordes. Et on avait d'autres ponts en arche. On a celui-ci que l'on voit et il y en avait deux autres petits ponts en arche. Alors, celui de cordes, on a dû le faire encore parce qu'on n'arrivait pas à jeter le tablier. Il a fallu recourir à un canon pour envoyer une sorte de flèche avec une corde solide et à partir de là, amorcer la construction du tablier. Mais durant quelques temps, on a eu ce pont de corde qui tombait jusqu'à, donc les chutes, je vous disais, 30 pieds de haut, 10 mètres de haut, et on était ici à peu près 3 mètres. Alors, il y avait tout un mur de chute là, derrière nous avec le bouillonnement et la vapeur d'eau. Alors, c'était assez impressionnant. Il existe de nombreux dessins d'ingénieurs et d'architectes du pont. Je vous en montre un. Ils sont tous très beaux. Et sur ce pont, l'un de nos héros nationaux va faire un haut fait très symbolique. Il va arriver à mettre en déroute les Shiners, qui étaient des malfrats. Il va arriver à les mettre en déroute. Il avait amorcé sa marche sur le pont pour traverser de Hull vers Ottawa. Et les Shiners lui ont tendu une embuscade. Mais un pont, vous savez, c'est assez étroit. Alors, ils avaient beau être 150, dit-on. Il a pris le premier. Il l'a fait tourner au-dessus de sa tête. Alors, il en a fauché 3-4 par la même occasion. Il y en a qui sont tombés à l'eau. Et les autres ont pris la fuite. Et symboliquement, c'est la résistance du français. Hein, c'est la survivance. Alors, ce pont des Chaudières, c'est aussi le lieu frontalier hein, où le français pourrait se perdre, parce qu'une frontière, c'est toujours poreux, où le français pourrait se perdre. Mais non, grâce à des héros comme Joe Monferrand, eh bien, le français a résisté. Et c'est ce qui fait qu'un jour, on a pu se rendre à la loi 101. Et bon, dans ces années-là, et un petit peu plus tard, vous savez, il y a eu les rébellions des patriotes. Et les rébellions des patriotes, c'était un des fondements, c'était que, avec la formation du Bas et du Haut-Canada, les francophones du Bas-Canada se retrouvaient politiquement en minorité en termes d'électorat. Alors, ça créait des tensions et il y a bon, des groupes qui ont décidé de prendre les armes et de se rebeller. Il n'y a pas eu de combat ici dans la région, pas du tout, mais par un hasard absolument incroyable, le pont des Chaudières s'est effondré dans ces années-là. Ce qui arrive, c'est qu'il avait été construit pour la construction du canal Rideau. La construction du canal Rideau s'est terminée en 1836. On a réussi à le rafistoler et à le faire tenir quelque temps encore, mais en 1839, alors qu'on était au point de tension le plus haut entre le Bas et le Haut-Canada, parce que là, les rébellions avaient eu lieu, puis on était encore choqués noirs. Alors là, le pont s'effondre. C'est en effet très symbolique, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais là, les choses restent comme ça quelques années, jusqu'en 1840, et là, il y a des politiciens qui disent « coudonc ». On n'a plus de pont entre le Haut et le Bas-Canada. trouvez pas que c'est un peu pour ça que ça va mal chez nous? Parce que, vous savez, la Grande-Bretagne avait à gérer, la Grande-Bretagne avait à gérer deux groupes qui étaient en tension. Et ça, quand on a beaucoup de colonies à travers le monde, on veut éviter ça. Hein? On veut la bonne entente. Alors là, donc, il y a des encouragements via le fameux rapport Durham qui disent qu'il faut reconstruire un pont à cet endroit-là. Et ce pont, on va lui donner le nom de l'acte qui vise à réunir, réconcilier le Haut et le Bas-Canada. C'est l'acte d'union. Et ce pont-là, on l'appelle le pont Union. Et on le fait solide. C'est un des premiers ponts à suspension. Et on le fait de pierre. On le fait solide pour, espère-t-on, qu'il dure longtemps. Et c'est ce qui amène l'avènement de Canada Est et Canada Ouest, qui n'a jamais été vraiment adopté. Les gens vont continuer de parler du Haut et du Bas-Canada. Et là, de celle-ci, je l'ai retenue parce que vous voyez du pont. On a le bouillonnement des chutes. Et là, il y a des descriptions très élogieuses des chutes qui se sont faites à travers le temps. Je ne vous en présente que quelques-unes. On a cet officier britannique qui les décrit comme étant « magnificent and splendid ». Et il y a Bouchette qui va dire qu'elle forme, cette vapeur d'eau forme un iris au soleil qui couronne triomphalement une section du pont. Alors, on aimait beaucoup les chutes. Et un autre chroniqueur va dire que le paysage de Bytown est ce qu'il y a de plus près des chutes du Niagara. Et c'est le paysage le plus pittoresque que l'on peut retrouver de toutes les régions habitées du Canada. Donc, beaucoup de bons mots à l'endroit des chutes. Et on a Cornelius Krieghoff. Bon, j'ai le même. On a Cornelius Krieghoff qui va venir représenter les chutes et qui nous a légué cette œuvre que l'on retrouve au Musée des Beaux-Arts. Et Cornelius Krieghoff, il faut apprécier cette œuvre-là. Elle est vraiment particulière parce que Krieghoff représentait des personnages. C'est très rare qu'il ne représentait que des paysages. Il représentait des scènes pittoresques de la vie courante, comme des gens complètement paquetés, des gens qui faisaient des coureurs des bois qui faisaient la traite des fourrures illégalement. Le carnaval, où on en retrouve 3-4 par terre, en tout cas. Mais il représente les chutes, non, il faut croire, tellement impressionné que là, il leur consacre un paysage de façon exceptionnelle. Et il se serait soit représenté lui-même, ici, dans cette section du tableau, ou il a représenté un autre peintre qui était en train de dessiner les chutes. Alors, ça montre à quel point il y a eu des artistes qui se sont succédés pour représenter les chutes. Un autre qui va représenter les chutes de façon... attendez. Un autre qui va représenter les chutes de façon assez flatteuse, c'est l'auteur William Hunter, qui va écrire un ouvrage. Alors donc, en première page de son ouvrage, on retrouve un segment des chaudières. Et il rédige cet ouvrage pour montrer les magnifiques vues d'Ottawa. Mais comme Ottawa, ça ne suffisait pas, il dit, de la région immédiate, parce que dans la région immédiate, il voulait inclure les chaudières. Et la raison, là, je vous montre certains de ses dessins des chutes. Et il explique à quel point c'est difficile de prendre les chutes en un seul dessin. On ne peut pas s'en sortir. Soit le dessin, elles sont très petites au loin, ou soit il faut plusieurs dessins pour en montrer les différents segments. C'est que dans ces années-là, elles allaient pratiquement d'une berge à l'autre, alors sur toute la largeur de la rivière. Et on a ici un autre segment de la chute qui, vraisemblablement, celui-là se trouve entre la grande chaudière et la petite chaudière. Et sur tout son ensemble d'illustrations, il y a 15 illustrations en tout et partout, donc sur Ottawa et la région, Mais sur les 15 illustrations, il y en a 10 qui se rapportent aux chaudières. Alors, c'était le secteur qui méritait le plus d'être représenté. Il y a un autre ouvrage, celui de Charles de Volpi, qui est plus tardif, qui fait un recueil des illustrations d'Ottawa, qui s'étalait de 1807 à 1892. Alors, lui, il rassemble 123 illustrations, et sur les 123, 28 % soit 35 œuvres représentent le secteur des chaudières, plus que la colline du Parlement, qui représente 23. L'une de ces œuvres-là que l'on retrouve de Volpi, c'est une œuvre de la main de Hunter, l'auteur de tout à l'heure, et ce qu'il fait ici, il représente, je vous expliquais, que les radeaux devaient longer la berge, mais des années comme cette année où la crue des eaux est vraiment très forte, il arrivait que les radeaux soient entraînés vers la grande chute. Et celui-là, miraculeusement, il y a un rocher qui a retenu le radeau et on a pu procéder à un sauvetage de l'équipage du radeau qui, un à un, se sont glissés vers le rocher et on dit que tous ont été sauvés. Et ici, donc on est du côté de Gatineau ici, et on a les gens de la berge ontarienne d'Ottawa qui se réjouissent du sauvetage. Et aujourd'hui, c'est ce que l'on voit. Alors encore une fois, on voit à quel point les œuvres sont importantes pour conserver la mémoire du territoire. Remarquez que ce que l'on voit a aussi toute sa valeur, mais c'est là, c'est évident. Alors moi, je vous parle de ce qui est moins, de ce qui est plus caché. Et ici, on a une autre œuvre qui est très intéressante. Alors là, la vie d'Ottawa, de Gatineau, tout cela avance. Et Ottawa soumet sa candidature pour devenir la capitale en fait de ce qui était Canada-Est et Canada-Ouest, la capitale des Canadas. Et dans le dossier de candidature, on a tout un écrit qui vante les mérites de la ville et on a cette illustration de M. Whitefield qui représente fort bien la ville d'Ottawa et il n'a pu s'empêcher d'y mettre le pont, la brume, la bruine venant des chaudières et un petit bout de la berge d'Ottawa. Alors encore une fois, pour vanter les mérites de la ville d'Ottawa, eh bien, on a les chaudières qui sont là, omniprésentes. Et la ville, donc, devient capitale. Et là, on a donc un concours qui est lancé pour obtenir des soumissions pour la construction du Parlement canadien. On a un cabinet d'architecture qui soumet sa candidature pour les édifices. Et ils reprennent une illustration. Ils avaient utilisé cette illustration pour annoncer leur cabinet. Et voyez ce qu'ils avaient mis à l'avant-plan de cette illustration, les chutes des chaudières. Et ils ajoutent, on a deux versions de la même illustration, ils ajoutent les dessins du Parlement. Alors, ils ne gagnent pas pour l'édifice du centre, mais ils l'emportent pour les édifices latéraux. Et là, dans ces années-là, je vais vous dire, on a eu un libre-échange. Et là, il y a tout un secteur industriel qui est en train de se former, des scieries, surtout des scieries qui est en train de se former aux chaudières en raison de la puissance des chutes, ce qui n'empêche pas la haute société de venir sur la colline du Parlement pour admirer la rivière et bien sûr les chutes. Et on aura pour poser la pierre angulaire du Parlement, on va avoir la visite du prince de Galles. On construit une arche à la sortie du pont qu'il franchit, et aussi ce qu'il fait dans le secteur des chaudières, eh bien, c'est une descente en radeau, sur le glissoir inventé de ce côté-ci. Alors, il fait cette descente avec toute sa délégation, et ça, c'est immortalisé par l'artiste George Henry Andrews, et c'est publié dans le London News, donc les Londoniens, apprenaient, suivaient les péripéties de leur prince en Amérique du Nord et, par ce fait même, voyaient ce que l'on avait aux chaudières, les glissoires que l'on avait aux chaudières et les illustres raftmen qui sont aussi devenus célèbres par des reportages comme ceux-là. Un autre, il y aura d'autres exploits aux chutes. On va avoir un funambule Farini qui va venir traverser sur un fil de fer au-dessus de la grande chute. Il va faire toutes sortes de pirouettes. Ça va attirer 10 000 spectateurs. Son deuxième spectacle va être annulé parce qu'il y avait tellement de monde qu'on avait peur que le pont Union, il ne fallait surtout pas qu'il s'effondre encore une fois. On avait peur qu'il s'effondre, alors on a dû annuler son deuxième spectacle. Il y aura un nageur, Louis Beauchamp, qui, une trentaine d'années plus tard, va plonger du pont des Chaudières. Plus important, revenons au Parlement. Alors, il fallait le construire, ce Parlement-là. Et qui a fourni le bois de la structure interne du Parlement? Eh bien, c'est l'un des plus grands entrepreneurs des Chaudières et l'un des plus grands entrepreneurs au Canada, voire au monde, John Rodolphus Booth, véritable homme des bois, dans son capot de fourrure, qui a vécu presque centenaire, je pense qu'il est mort à 96 ans, et son premier contrat, son tout premier contrat, ça a été de fournir le bois de la structure interne du Parlement, et il était établi nulle part ailleurs qu'aux Chaudières. Alors, je vous parlais de l'entente de libre-échange qui a eu lieu au milieu des années 50. On a plusieurs Américains qui vont venir ouvrir des scieries et autres manufactures. Et parmi eux, on va voir Eddy. Et eux là, vont faire de ce secteur un secteur extrêmement prospère. À un certain point, il va y avoir 6 000 travailleurs qui vont travailler sur les lieux mêmes, auxquels vont s'ajouter tout près de 4 000 forestiers qui coupaient le bois en forêt. Alors, on a un total de 10 000 personnes qui étaient salariées là, à partir des entreprises des Chaudières. Et là, on ne compte pas tous les petits services, les coiffeurs et ainsi de suite, qui s'ajoutent à ça. L'inconvénient, c'est que le site va se couvrir de planches de bois. Et là, tout ce que vous voyez, les petites lignes ici, tout ce secteur-là, tout ça, ce sont des piles de bois. Alors, deux choses, véritable nid à feu et aussi poudre de bois qui va polluer tout ce secteur de la rivière des Outaouais. Ici, c'est pour vous donner une idée, oui, de la hauteur des piles. Alors, 30-40 pieds de haut étalés sur toute la surface que je vous ai montrée. Véritable nid à feu. Premier un des grands feux de Hall, celui de 80. Le secteur va y échapper. Le vent pousse dans la direction contraire. Mais évidemment, le feu de 1900, alors le secteur va y passer. Et avec les radeaux et les piles de bois, ça va se propager. Le pont, ça va se propager du côté d'Ottawa. Et ça va causer le désastre dont M. Ouimet a tant parlé dans son livre Hall, une ville en flammes. Avant ce grand incident tragique, la photo que j'ai choisie des ruines, c'est la photo de l'allumetterie, de la fabrique d'allumettes. Alors, fabrique d'allumettes que l'on voit ici, vous voyez la cheminée. Alors, la fabrique d'allumettes, elle est ici, au pied de la cheminée. Alors, cette illustration-là, elle est très précieuse parce qu'elle montre les édifices dans les années 1870, avec une description tout à côté d'une énumération de chacun des édifices. Et encore une fois, c'est ce que l'on voit aujourd'hui et c'est ce que l'on avait auparavant. On a une autre belle affiche, cette fois pour aider, c'est une affiche publicitaire pour la vente des nombreuses allumettes que Eddy produisait. Alors ici, on a encore une fois la vue de la fabrique d'allumettes au pied de la cheminée, avec des entrepôts. On a d'autres. Ici, on avait des scieries. Ici, on a la maison de Eddy. Et on a d'autres. Parmi les vestiges à ne pas négliger, ce sont les documents d'assurance. Alors, Eddy va échapper au feu de 1880, mais un autre feu, deux ans plus tard, 1882, va raser plusieurs de ses édifices. Il va reconstruire. Et là, ce que l'on voit sur ces plans d'architecture-là, et c'est corroboré par des photographies, on a les toits en voûte. Durant une certaine période, on a eu des toits en voûte qui ont été installés. Mais par la suite, ça va être, dans la reconstruction d'après 1900, ça va être abandonné. Alors, les allumetières, vous êtes tous au courant de la grève qu'elles ont courageusement tenue. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il y a des résidents qui les ont supportés en signant une pétition. La pétition n'était pas nécessairement, c'était une façon de les supporter, mais la pétition n'était pas pour dire « on est en faveur de la grève ». La pétition était pour dire « non, ne donnez pas à M. Eddy le terrain qu'il demande en raison de son traitement envers les allumetières ». Alors, c'était, donc Eddy a été privé d'un terrain durant un certain nombre d'années en tout cas, à cause de la façon dont les allumetières avaient été traitées, elles qui sont devenues des héroïnes, qui ont mené au roman de Marie-Paul Villeneuve. Alors, le roman ne se passe pas entièrement ici, mais comme page couverture, on a ce montage photographique hein, d'une allumetière qui est aussi dessinée, et mais les édifices de la ED, qui, eux, on a vraiment pris une photo d'archive là, pour les représenter. Alors, toute cette syndicalisation, là, je dis féministe, mais les hommes aussi, le mouvement syndical, il y a eu vraiment dans la région, parce que les conditions de travail étaient très difficiles. Dans les scieries, on respirait la poudre de scie. Il y a des enfants qui y travaillaient. Les heures étaient 12 heures. Raymond Ouimet dit que ça allait même jusqu'à 14 heures. Alors, le bruit... des conditions vraiment excessivement difficiles. Alors, il y a vraiment, ça favorisait l'émergence des mouvements syndicaux. Et là, on en arrive, je vous montre, donc on en arrive à la fin du transport par radeau qui a duré 100 ans, 1806 à 1906 environ. Et là, petit détail, ici, vous voyez, on a un poteau électrique et sur le site des Chaudières, on va retrouver parmi les premières centrales au Canada, dont celle-ci, la centrale numéro 2, qui avait été construite en 1891, qui a été endommagée par un des incendies, restaurée et qui est toujours en opération. Alors, c'est une des plus anciennes centrales au Canada, toujours en opération. On en a d'autres sur le site, parmi lesquelles celle-ci, qui est maintenant désuète, elle remonte à 1901. Elle est du côté de Gatineau, se trouve au Trou du Diable. Et avec l'électrification, on a le transport par tramway. Alors, il y avait des tramways tirés par des chevaux auparavant, mais là, ils seront électrifiés. Et donc, ça permettait de traverser le pont. Ils allaient à Ottawa. Et là, on avait une autre ligne qui, au début, n'allait pas très loin à Hull, mais qui, éventuellement, va être prolongée vers Aylmer. Avec l'électrification vient aussi l'ère des pâtes et papiers, qui avait commencé avant le feu de 1900. Eddy avait commencé à produire du papier à la fin du 19e siècle. Et là, la rivière va se couvrir des vapeurs qui tirent non plus des radeaux, mais les sacs de grume, les sacs de pitounes. Et on avait aussi les montagnes de pitounes dans le paysage. Et là, on a deux entrepreneurs. Après le feu de 1900, les scieries disparaissent du paysage et on a deux entrepreneurs, Booth et Eddy, qui se font face, qui se font concurrence. Les deux sont extrêmement productifs. Disons que la grande différence, c'est que Booth va se lancer dans la construction de chemins de fer. Il va beaucoup investir dans les chemins de fer, tandis que Eddy, lui, en plus du bois scié et du papier, lui, c'est avec les allumettes qu'il va faire fortune. Alors, l'entreprise de Booth va être la plus grande entreprise en 1920. Elle est vue comme étant la plus grande entreprise au monde appartenant à un seul homme. La Eddy, elle est instituée en entreprise, en corporation, et ça va favoriser une meilleure succession. À la mort de Booth, l'entreprise périclite, tandis que la Eddy va continuer de bien opérer, si bien qu'elle va absorber la Booth en 1946. Alors, les édifices de la Booth qui étaient du côté ontarien vont devenir une propriété québécoise. Une autre œuvre très importante pour le site, alors on est maintenant en 1914, c'est Henri Fabien, un franco-ontarien qui l'a fait. Et on voit les entreprises d'Eddy et de Booth. Et ce qui est intéressant, c'est que ça montre la couche de bâtiments actuels. Alors, ça montre en 1914 qu'on avait en 1914 et qui a survécu depuis 1914. Et là, j'ai fait un petit montage et on voit donc ici l'AED, les cheminées et le réservoir d'eau. Donc, les cheminées ont disparu, mais on a les édifices du boulevard Taché qui sont restés en place. On a les bureaux de la Boute, ici, que l'on voit ici. Ici, c'est la cartonnerie que je vous ai montrée en début de conférence. Et ici, on a les installations de la Ottawa Railway Electric Company, qui aujourd'hui est devenue un petit centre d'alpinisme intérieur. Et on a un tout petit bout des édifices de la Bronson, qui avait investi dans les scieries, et Bronson Fils, qui, avec d'autres partenaires, va investir dans la production d'électricité. Et ici, on a ce qui va devenir la Union Carbide, qui est une invention de Thomas Wilson. Alors, on a l'édifice complet ici. Ça, vous l'apercevez quand vous prenez le pont du portage. Vous apercevez cet édifice à partir du pont. Alors, M. Wilson, dont l'entreprise est établie du côté ontarien, va construire un chalet du côté québécois au bord du lac Meech. Et c'est dans ce chalet, oui, que l'on va négocier les ententes du lac Meech. Et M. Wilson va aussi amorcer le début d'une construction d'une autre usine dans le parc de la Gatineau, et il reste toujours des vestiges de cette usine dans le parc de la Gatineau. Alors, c'est pour vous dire que ce qui se trouve du côté ontarien fait partie de notre paysage et est rattaché directement à notre histoire. Alors, le développement du site, quand on va parler de développement patrimonial, il faut le voir dans un ensemble, et on va souhaiter qu'il y ait des collaborations entre le Québec et l'Ontario. Là, je devrais être correcte dans le temps. OK, je suis à la fin. Alors, on voit aujourd'hui l'apparence du site qui s'est beaucoup reverdi. Le site, on a un microcosme de l'histoire du Canada, avec les Amérindiens, les explorations de la Nouvelle-France, le régime anglais, l'affirmation des francophones, l'exploitation des ressources naturelles, les ponts brisés, les ponts reconstruits, le choix de la capitale, le Parlement, l'ère industrielle, l'avènement de l'électricité. Tout ça rejoint la grande histoire nationale du pays. Et la valeur du secteur, c'est un peu tout ça, c'est les chutes elles-mêmes, les œuvres, les documents d'archives que je vous ai montrés. Et mes recommandations sont bien sûr de préserver les édifices qui restent, de rassembler les œuvres que vous avez vues, parce qu'à l'heure actuelle, elles sont dispersées dans toutes sortes de fonds d'archives et de musées. Alors, les rapatrier sur le site, ça serait vraiment formidable, en faire une exposition encore mieux. On peut aussi mettre en place des sentiers d'interprétation. Tout ce que je vous ai dit pourrait être présenté sur des panneaux d'interprétation. Fermer le pont les dimanches et faire une place aux artistes. Et là, on arrive à la